Les colloques du Collège de France.
Bonsoir, donc nous allons conclure cette journée par une discussion avec deux éminents spécialistes, je veux dire, même s'ils sont d'horizons légèrement différents, donc autour des forces et faiblesses du modèle public. À ma gauche, François Crémieux, donc qui actuellement dirige l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, qui a une assez longue carrière, bien qu'il ne soit pas encore si âgé que ça, de directeur d'hôpital. J'ai noté qu'il a commencé, la première fois, si je ne me trompe pas, qu'il a été directeur d'un hôpital, c'est au Kosovo, en 1999, l'hôpital Mitrovica, dans le contexte que l'on connaît. Et puis depuis, il a travaillé à Paris et donc à Marseille depuis 4 ans. Il a une réflexion approfondie sur ce qu'est aujourd'hui, ce que devrait être un hôpital. À ma droite, André Grimaldi, qui est médecin, diabétologue, professeur des universités, praticien hospitalier à la Pitié, où il est maintenant professeur émérite, grand spécialiste du diabète et qui, depuis longtemps, a développé une réflexion et un engagement, je dirais, autour de ce qu'il a appelé même le mouvement de défense de l'hôpital public, parce que cette association existe en tant que telle. Donc nous avons deux interlocuteurs pour nous parler des forces et des faiblesses du modèle public, et ils vont prendre la parole, et puis vous pourrez évidemment leur poser les questions que vous souhaitez. Peut-être pour commencer, juste François, est-ce que vous m'avez dit qu'après tout, malgré toutes les critiques, les hôpitaux, les CHU vont peut-être pas si mal que ça? Vous pouvez développer?
Ça permet. Donc d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs pour l'invitation. J'étais très ému en rentrant dans cet amphi parce que vous avez peut-être tous remarqué qu'il s'appelait Maurice Alpvax. Et il se trouve que l'un des hommes qui m'a le plus influencé sur le plan de mon parcours de lecteur et un peu intellectuel, c'est Georges Semprin. Je ne pourrais que vous encourager à relire L'écriture ou la vie, qui décrit avec une grande beauté les derniers jours, les dernières heures de Maurice Alpvax à Buchenwald. Je pense effectivement que l'hôpital public va mieux qu'on ne le dit. Et je voudrais, au-delà du débat de savoir si j'ai tort ou raison, ce qui finalement importe peu, poser un peu le sujet en des termes politiques, en le sens suivant. Je pense que l'hôpital public va mieux qu'on ne le dit et qu'il est victime de deux dramaturgies qui ont tendance à s'alimenter d'une autre. D'une part, la dramaturgie de ceux qui défendent l'hôpital public et qui ont comme stratégie efficace, depuis longtemps, de défendre l'hôpital public en alertant sur le risque de sa disparition, sur l'état de l'hôpital public et sur le risque que nous n'ayons plus d'hôpital public à moyen terme. Et cette dramaturgie de la fin de l'hôpital public, d'abord, elle est assez spécifique dans le monde des services publics à l'hôpital. On entend rarement la SNCF expliquer que c'est la fin du rail, même si régulièrement, ils font des manifs pour défendre salaire moyen et matériel ou autre. Mais à l'hôpital, on a un peu cette caractéristique-là. Et je le dis sans ironie, elle a été redoutablement efficace et elle permet effectivement de défendre l'hôpital public en alertant régulièrement nos concitoyens que nous sommes possiblement au bord du gouffre. Et puis il y a une deuxième dramaturgie qui est ceux qui s'opposent à l'hôpital public et qui pensent que dire de l'hôpital public qu'il est en fin de course est une bonne manière pour accélérer une forme de privatisation et permettre à d'autres de venir prendre une place importante dans ce champ-là. Alors, je vous livre d'une part cette réflexion-là et d'autre part une réflexion complémentaire qui est qu'effectivement, après avoir exercé en Île-de-France, à la fois à la PHP mais également à l'Agence régionale de santé, j'avais constaté à l'époque qu'on portait le même discours, le même diagnostic, les mêmes enjeux à l'hôpital public, qu'il s'agisse de la PHP ou de l'hôpital de Saint-Denis ou de Pontoise ou d'Évry ou de Dourdan. Et quand j'étais à l'Agence régionale de santé, je me disais, il y a quand même un truc un peu incongru qui est d'analyser de manière assez similaire des hôpitaux qui sont dans des territoires aussi différents les uns des autres, qui sont soumis à des règles de management aussi différentes, qui ont une histoire aussi éparse, etc. Et d'autre part, en passant de Paris à Marseille, je vous confirme que même entre deux assistances publiques des hôpitaux de Paris dans un cas et de Marseille dans l'autre, avec énormément de points communs en termes de formation, de recherche, d'excellence, de lien avec l'université. Et pourtant, en raison de la différence entre les deux territoires, les deux assistances publiques ont plus de points de différence, je crois, que de points communs. Et au sein même des Bouches-du-Rhône, parler de la même manière de l'assistance publique de l'hôpital de Salon, de Martigues, d'Aix ou d'Aubagne n'a aucun sens. Et donc, ma dernière remarque sur ce point qui est que, d'une part, je crois que nous allons mieux que nous ne le disons, et que, d'autre part, surtout, nous allons très différemment bien ou mal selon où on est. Il faudrait qu'on arrête de considérer qu'à chaque fois que ça va bien, c'est un peu le hasard du moment, une expérimentation qui fonctionne bien ou que sais-je, et que par contre, quand ça va mal, ce serait signifiant d'un système qui serait en défaillance globale. Quand l'hôpital de Caen a une difficulté avec ses internes aux urgences, phénomène récent, on en conclut que c'est la démonstration que toutes les urgences de France vont mal. Toutes les urgences de France ne vont pas mal et certaines vont même plutôt bien. À l'inverse, quand certains services d'urgence vont bien, on considère que c'est l'exception qui confirme la règle parce qu'on prend comme présupposé qu'on est dans une situation de dramaturgie de l'état de l'hôpital public. Et mon dernier point, c'est que si j'ai tort, on se le dit et on en discute, éventuellement avec André Grimaldi, mais si j'ai raison, alors il faut qu'on ait une stratégie de prise en compte de nos hôpitaux qui soit différenciée selon les structures dont on parle, selon les territoires sur lesquels on est, selon la taille des établissements, et qu'on organise des politiques publiques qui soient différenciés en termes de gouvernance, en termes de financement, en termes de pilotage public, et qu'on n'ait pas la même manière de traiter l'hôpital de Dourdan d'un côté et l'assistance publique des hôpitaux de Marseille de l'autre, et au sein des Bouches-du-Rhône, l'hôpital d'Aix ou de Salon et celui de Marseille.
Alors, André, un spécialiste de la dramaturgie, de la défense de l'hôpital public.
Oui. Bon, je suis, moi, professeur émérite, c'est-à-dire vieux, ayant une longue expérience et sans plus devoir de réserve ni de conflit d'intérêt. Alors, le pays est inquiet, à juste titre, parce que les hommes politiques le disent tous, de la soutenabilité de notre système de santé. Ça, c'est le débat permanent que l'on a régulièrement. Alors, pourquoi d'abord force du service public, auquel la France est quand même très attachée? Pour deux raisons. Premièrement, pour des raisons républicaines et éthiques, il assure l'égalité, ou il doit assurer l'égalité face à la maladie et à la mort. Il a un principe de fonctionnement qui est le juste soin pour le malade, au moindre coût pour la solidarité, puisque c'est la solidarité qui le solvabilise, qui le finance. Et il nécessite une régulation, car les besoins de santé étant pratiquement infinis, il y a besoin d'une régulation. Il y a trois types de régulation. Il peut être une régulation médicale, une régulation par l'offre de soins publics, qui dit voilà la limite, voilà ce que l'on prend en charge, voilà ce que l'on ne prend pas en charge. Agnès Buzyn dit l'homéopathie, on ne la prend pas en charge. Il y a des débats réguliers sur les cotarmales et autres. Et il y a un courant politique puissant en France qui dit la régulation doit se faire par le marché. Création du secteur 2 en 1980, discussion sur les franchises, doublement des franchises par le président de la République, proposition de Bérou d'augmenter encore ses franchises. Bon, donc on a ce débat. Alors, la régulation par le marché, qu'on va avoir pour les présidentielles. On pourra dire l'hôpital va bien, comme dit François Crémieux, je m'en réjouis, mais enfin, pour les présidentielles, ça ne va pas être ça le débat. La régulation par le marché, ça ne marche pas. Ça crée les inégalités sociales et ça augmente les coûts. Alors, celui qui m'a appris ça, parce que j'ai une longue expérience, j'ai rencontré en 2012 avec des collègues un ancien Premier ministre de la France. On lui explique notre point de vue, il nous écoute et il dit « Messieurs les professeurs, je comprends vos valeurs et pour l'essentiel, je les partage. Mais la santé devient un business mondial. La France est très bien placée sur ce créneau. Qu'on le veuille ou non, qu'on le regrette ou pas, il y aura des hôpitaux 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, comme il y a des hôtels, etc. La Jet Society arrivera dans ses jets privés et sera transportée en hélicoptère dans les suites des hôpitaux 5 étoiles. J'étais avec Jean-Paul Vernant, l'hémato-oncologue, qui lui dit « Monsieur le Président, ça existe déjà, ça ne marche pas. » L'autre, il dit « Ah bon ? Et où est-ce que ça existe ?» Vernon lui dit « C'est quoi d'autre que l'hôpital américain de Neuilly ?» Là-dessus, le Premier ministre devient pâle, il dit « Ah bon ? Je dois m'y faire opérer dans 15 jours. » Vernon, très froid, « S'il y a bien un endroit où je ne me ferai pas opérer, c'est là. » Panique à bord, « Voilà mon problème, est-ce que vous n'avez pas un collègue qui pourrait s'occuper de moi ?» Donc, vous êtes Premier ministre de la France et vous croyez que si c'est cher, c'est quand même que c'est mieux. Alors, la vraie question, parce que je ne prends pas au même niveau que François, que je comprends, le directeur d'hôpital sur le terrain, moi je n'y suis plus vraiment, c'est est-ce qu'on peut avoir un service public, quand les valeurs publiques ne sont plus les valeurs dominantes d'une société ? Et moi, j'étais très frappé par trois choses récentes qui n'ont pas fait scandale dans la société. Premièrement, on a un ancien ministre de la Santé, neurologue, qui n'est plus ministre, et qu'est-ce qu'il veut devenir ? Faire de la médecine esthétique. Deuxièmement, on a un ancien directeur général de la santé, spécialiste de santé publique. Il n'est plus aux affaires, qu'est-ce qu'il veut faire ? Aller à Zoï, faire du dépistage de luxe pour personnes très... et pour des grands moyens, à 3 600 € le dépistage. Enfin, on a eu tout récemment des chirurgiens qui se sont exilés dans les hôtels de Bruxelles. Le président du syndicat a fait la déclaration suivante. Nous partons à Bruxelles pour ne pas pouvoir être réquisitionnés et ainsi créer une crise sanitaire qui sera politiquement insupportable. Ça n'a pas provoqué un tollé. On n'a pas entendu le Conseil de l'Ordre des médecins dire « Attends, on ne peut pas tenir de tels propos ». Donc, je suis très inquiet sur l'avenir. Alors, effectivement, il y a des forces de résistance dont nous dramatisons, mais enfin, d'abord, fondamentalement, le peuple français, qui fait que cette attaque contre les services publics ne se fait pas frontalement. Parce que le gouvernement qui s'amuserait à ça, il ne tient pas 15 jours. Elle se fait par la stratégie du salami, comme le dit Didier Tabuteau, par petites tranches. Et il y a des outils pour ça. Il y a les chaînes de cliniques commerciales qui se développent et qui sont puissantes. Il y a les complémentaires santé qui servent de passage régulier. Michel Barnier voulait passer de 30, le ticket modérateur de 30% à 40%. Là, on va réduire les affections de longue durée et donc on va passer sur les complémentaires santé qui sont moins égalitaires, moins solidaires et plus coûteuses. Voilà. Donc voilà l'inquiétude d'où elle vient. Elle ne vient pas des principes d'un service public, lequel peut dévier. Bon, on en parlera. Le grand principe d'un service public, c'est le juste soin au moindre coût pour la collectivité. Autrement dit, avec la tarification d'activité, les directeurs d'hôpitaux et l'ensemble des médecins font tout ce qu'ils peuvent pour couler la sécu. Là qu'elle s'en aperçoit, et donc on a des régulations complètement absurdes qui consistent à baisser les tarifs quand l'activité augmente. Voilà, donc je continue mon combat.
Réaction au combat ?
J'ai aucun espoir de le faire dévier. Non, aucun espoir de faire dévier André, mais de contribuer à la réflexion de chacun. Et en plus, je suis bien de nos propos sont pas contradictoires. Je pense effectivement, et pour faire avancer la réflexion, on a effectivement deux sujets. On a un sujet majeur de financement, avec deux questions dans le financement. Premièrement, quel sera le coût de notre santé collective à échéance de 5 ou de 10 ans ? Deuxièmement, trois questions. Deuxièmement, est-ce qu'on est capable de l'assumer compte tenu des autres coûts ? L'éducation, la sécurité, le logement, les transports, les infrastructures, les centrales nucléaires, et je vous en passe. Et troisièmement, dès lors qu'on aura décidé de quelle est la part de notre richesse nationale qu'on est prêt les uns et les autres collectivement à dépenser pour notre santé, comment est-ce qu'on la dépense ? Alors sur le premier sujet qui est quel sera le coût de notre santé demain, il sera plus élevé qu'aujourd'hui, très significativement. On vieillit collectivement et on vieillit, la population vieillit pour des raisons de démographie. Deuxièmement, on vit avec des maladies chroniques, on en discute à toutes les tribunes, etc., chacun le sait. Troisièmement, les coûts sont plutôt en augmentation qu'en baisse, parce qu'au fur et à mesure où le progrès avance, la recherche et le développement coûtent de plus en plus cher. On peut débattre de savoir si on ne se fait pas un peu avoir par l'industrie pharmaceutique ou par la recherche et le développement, mais il n'empêche qu'il y a quand même un trend naturel à ce qu'on ait des thérapeutiques qui soient de plus en plus onéreuses. Et donc aujourd'hui, en valeur absolue comme en valeur relative de notre richesse nationale, nous dépenserons plus demain pour notre santé. Il va falloir donc qu'on assume ce choix politique qui est probablement soit de développer de la croissance et de développer de la richesse et de pouvoir se payer ça, tout autre chose égale par ailleurs, soit il va falloir qu'on fasse des choix en termes d'orientation de la dépense publique et qu'on fasse que notre santé soit un peu plus prioritaire demain qu'elle ne l'est aujourd'hui, encore une fois, compte tenu des autres dépenses à faire. Ce débat-là, je ne sais pas s'il sera un débat des présidentielles à venir, mais il n'a pas été des élections de cette semaine, il n'a pas forcément à l'être, compte tenu du contexte municipal. En revanche, il devrait l'être des prochaines présidentielles, parce que passer de 12 à 13, à 14 ou à 15 points de PIB consacrés à la santé, parce que vieillissement et chronicité, ça a des impacts majeurs en termes de choix démocratiques. Deuxièmement, si tant est qu'on réponde oui à cette question, et que donc on ne fasse pas le choix d'abandonner certains patients, certaines typologies, certaines thérapeutiques, certains médicaments très chers, que l'on, si on fait l'hypothèse qu'on ne fera pas demain d'économies sur les équipements, etc., alors il faudra qu'on augmente. Deuxièmement, comment est-ce qu'on répartit cette dépense-là? Et là, je rejoins un des combats d'André Grimaldi aujourd'hui, qui est qu'on a un système aujourd'hui qui est tout sauf optimal. Entre les règles de financement par l'assurance maladie d'une part, par les assureurs ou les complémentaires ou par les mutuelles d'autre part, et par chacun d'entre nous en direct, tout ça n'a plus d'autre sens aujourd'hui que l'évolution progressive au cours des 70 dernières années, depuis globalement la création de la Sécu, et le fait qu'on a navigué à vue année après année et qu'on a un peu réparti certains médicaments un peu moins indispensables que d'autres. On les basculait du côté des mutuelles ou directement du côté du patient, et puis à l'inverse, on faisait rentrer d'autres frais. Ce système-là n'a plus de rationnel économique, si tant est qu'il en ait eu un, n'est pas aujourd'hui un système optimal, et dans les enjeux d'économie à réaliser pour pouvoir se payer la santé dont on aura besoin, il faut qu'on traite de cette question-là. Et je veux croire que, y compris du côté des mutuelles, ils y sont plus prêts qu'on ne le pense. C'est-à-dire que je pense qu'il y a du côté des mutuelles une réflexion qui avance, notamment parce qu'ils ont d'autres enjeux à financer, la dépendance, le grand âge, le handicap, et qu'on pourrait commencer à réfléchir un peu plus, de manière un peu plus opérationnelle, à comment est-ce qu'on remet dans l'assurance maladie l'intégralité des dépenses de santé, et comment est-ce qu'on bascule à d'autres, le cas échéant, des dépenses autour de l'enfance, le vieillissement, la dépendance, le handicap. Donc c'est deuxième enjeu. Troisièmement, comment est-ce que, quand bien même on serait d'accord sur le montant à payer et sur la manière de le faire, comment est-ce qu'on répartit cette somme-là? Et là, effectivement, c'est vrai à Marseille, c'est vrai ailleurs, la question de l'organisation entre le public et le privé, elle est là aussi défaillante. Non pas qu'elle ne soit pas historiquement fondée, non pas qu'il n'y ait pas plein d'excellents médecins généralistes ou de très bonnes cliniques, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est sur chacun des territoires aujourd'hui, ces deux systèmes-là ont été des systèmes compétitifs dans une période de croissance, et globalement le système s'est retrouvé. Ce sont des systèmes concurrentiels dans une période au mieux de stabilité, au pire de décroissance en termes d'argent à dépenser, et ça ne fonctionne plus, ou en tout cas, ça n'a plus aucune logique, ni d'optimum économique, ni d'optimum en termes de stimulation réciproque entre les deux secteurs.
Alors,
là, on se rapproche. Les dépenses de santé françaises, c'est entre 11 et 12 % du PIB. On est, selon les années, 3e, 4e. Les USA en tête avec 17%, et puis l'Allemagne, la Suisse, puis la France. Brigitte Dormont, qui est là, fait remarquer qu'on pourrait dépenser plus. On peut dépenser plus, c'est un choix de société. Mais elle et tout le monde est d'accord pour dire, oui, à condition que ça serve à la santé, à l'amélioration de la santé, pas à entretenir des rentes. Ce que vient de développer François. Alors, le
comment
problème...
on dépense mieux, autrement dit.
Comment on dépense mieux? Autrement dit, les règles qui sont celles du service public, c'est-à-dire pertinence, qualité et efficience, non seulement des soins, mais des organisations et du mode de financement. Mm-hmm. C'est l'ensemble. Alors, le problème, une fois qu'on a dit ça, Nicolas Revel, directeur général de la science publique, souligne une chose qui est fondamentale, c'est que si on ne change pas le système, les dépenses augmentent de 4% par an. Donc, par an. Donc, forcément, et à un moment donné, il y a une limite. On ne peut pas penser qu'on augmente indéfiniment 4% par an. On peut augmenter, mais à un moment donné, il y a une limite. Et comment se fait cette limite? Elle peut se faire par les inégalités sociales de santé. C'est-à-dire qu'aux USA, il y a dans Medicaid, des gens qui sont jeunes, qui ont une leucémie, ben, ils meurent. Ben voilà, ils ne sont pas traités. Bon. Faut pas croire que ça nous échappera, hein. Faut pas croire que ça, c'est impossible. Si, c'est possible. Alors, si on regarde du point de vue des efficiences du système de santé, on a un système de santé qui s'est construit comme système de soins autour de la maladie aiguë. Maladie aiguë et geste technique simple en ville, maladie aiguë grave, geste technique complexe à l'hôpital. Or, le problème actuel majeur, c'est la maladie chronique. C'est 65% des dépenses, c'est 70% de l'augmentation des dépenses. Or, notre système n'est pas organisé pour la prise en charge de la maladie chronique, ni en termes de prévention, ni en termes d'inégalité sociale, parce que le cancer, le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, c'est un gradient social, ni en termes d'organisation et de financement. Donc, le principe, c'est les meilleurs systèmes de santé, qui n'existent pas en tant que tels, mais partiellement, c'est les systèmes intégrés. C'est un système intégré ville-hôpital, un système intégré médecins et paramédicaux, soignants et travailleurs sociaux. Bon. Alors, on essaie d'avancer doucement pour ça, mais on a une force de blocage en France phénoménale qu'est la médecine libérale. L'idéologie de la médecine libérale, c'est le paiement à l'acte qui est contradictoire avec la prise en charge des malades chroniques. Si je prends le diabète, l'idée de faire un paiement à l'acte de 30 euros, ça amène à dire qu'il faut qu'il revienne. Puis moins il est grave, plus c'est intéressant. Et donc on a des médecins libéraux maintenant nombreux, notamment des jeunes, qui disent une question, une consultation, deux questions, deux consultations. Et puis s'il y a des problèmes sociaux, ben, je ne peux pas m'en occuper. Puis s'il y a des problèmes psychologiques, je ne peux pas m'en occuper. Parce qu'évidemment, 15 minutes. Bon, donc cette logique du soin aigu est contradictoire, de même que la T2A. Alors on dit, j'ai entendu François Bourdillon, capitation, forfaitisation, c'est évident que pour un diabétique non compliqué, ben voilà la cahier des charges, voilà la somme annuelle, et vous gérez, vous, avec les paramédicaux, la meilleure façon de prendre en charge. Celui-là, il faut le voir beaucoup, celui-là souvent, celui-là pas du tout, celui-là une fois par an, il peut avoir le renouvellement de son ordonnance par l'infirmière de pratique avancée, voire par le pharmacien. Hein. Or, c'est pas du tout ça qui se passe. Bon, on a donc 20 à 30% de prescriptions dans toutes les enquêtes, injustifiées. Et on n'a aucune politique réelle de pertinence des soins. Et dès qu'il y a une politique de pertinence des soins qui n'est pas médicalisée, qui est faite par la Sécu, il y a un blocage, le Front libéral du refus. Alors là, je le dévie un peu, mais je ne suis pas un homme politique. Mais quand même, l'art de la politique, c'est de diviser son monde. Comment on arrive à mettre dans le même sac les médecins de secteur 1, en tête généraliste, suivi par les spécialistes, puis en dernier les radiothérapeutes, puis en première ligne, on va mettre les internes. Et comme ça, on a un front du refus. Et comme disait très justement Roselyne Bachelot, faire rentrer les internes à l'hôpital quand ils sont sortis, c'est aussi facile que de faire rentrer le dentifrice lorsqu'il est sorti du tube. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait une tentative comme ça, comme on l'a fait récemment? On capitule face à la médecine libérale, et on fait un grand bond en arrière. Et on a connu ça en permanence. Alors, sur les modes de financement, on pourrait parler de la régulation absurde qui a été mise prix volume à l'hôpital, qui tue la T2A, au fond, alors qu'il faut une régulation a posteriori, et l'Allemagne fait beaucoup mieux que nous. L'Allemagne passe des contrats avec les hôpitaux. Qu'est-ce que vous allez avoir comme activité? Si vous avez plus, vous aurez une diminution de tarif. Si vous avez moins, on vous maintient parce que vous avez quand même du personnel, etc. Donc il y a une régulation qui est faite sur la base d'un contrat initial. En France, on fait des coups de rabot. Hein? Alors, en 2016, les tarifs financés aux hôpitaux baissent de 1%. À ce moment-là, l'activité hospitalière diminue. Mais on dit qu'il y a eu un bug informatique à la paix, donc on n'en tient pas compte. Et en 2017, on baisse encore 0,9%. Arrive Agnès Buzyn au pouvoir, qui me dit « c'est absurde, André, ce système ». Elle fait un grand interview dans Libération, qui nous donne complètement raison. Elle fait partie des gens qui critiquent. On va arrêter tout ça, l'hôpital entreprise, cette logique folle. Et qu'est-ce qui se passe? Ben Bercy, c'est pas elle qui décide, c'est Bercy et le Premier ministre, on baisse encore 0,5%. alors que l'activité baissait. Alors évidemment, en 2019, ça explose. Avec nous, mais pas seulement nous. Tous les hôpitaux sont dans la rue. Et en catastrophe, alors que le PLFSS avait déjà été voté, le président de la République prend la parole, le Premier ministre avec Agnès Buzyn, en urgence, augmente les tarifs de 0,2%. Et elle a cette phrase politique magnifique qui est « Pour la première fois, nous augmentons les tarifs, c'est une première historique. » Après les avoir baissés de 0,5 l'année d'avant. Voilà, oui, j'arrête.
Ouais, on peut peut-être interrompre. Okay. On peut continuer année par année, mais bon. D'une certaine façon, à travers ton exposé sur comment faire mieux, se pose la question de l'évaluation à tous les niveaux du système de santé, en médecine libérale, mais à l'hôpital aussi, non, il me semble. Je sais, est-ce que François est prêt à traiter ce point d'évaluation ? Comment on nous évalue ?
Si je peux rebondir avant d'évoquer l'évaluation, rebondir sur. Je voudrais très rapidement raconter une histoire rapide qu'on a donc essayé de mener à Marseille, non pas tellement pour l'histoire elle-même, mais pour ce qu'elle peut éventuellement vouloir dire du système. C'est la création par l'assistance publique des hôpitaux de Marseille de centres de santé dans les quartiers nord. Donc d'une part, ce sont des belles histoires. Ces belles histoires, c'est des équipes sympas, dynamiques, qui sont installées dans des cités un peu compliquées, qui travaillent ensemble et qui sont contentes de le faire. Deuxièmement, c'est des patients qui sont pris en charge. Comme ailleurs, plutôt bien, et c'est une deuxième partie de la belle histoire. Mais surtout, et c'est peut-être ça qu'on peut partager un peu à distance ici à Paris, c'est de se dire, premièrement, c'était un message clair qui est que quand il n'y a rien, c'est au service public d'y aller. Et je crois que c'est revenir un peu aux fondamentaux du service public, de considérer que dans le domaine de la santé, comme dans le domaine de l'éducation, comme dans le domaine des transports, comme dans d'autres domaines, l'électricité, etc., quand il n'y a pas de secteur privé pour faire, il peut y avoir des raisons de faire, même s'il y a le privé. Mais en tout cas, quand il n'y a pas de secteur privé pour faire, le secteur public doit y aller. Et c'est comme ça qu'on a lancé ce mouvement-là, en disant les quartiers nord sont en ce moment pris dans une démographie défavorable, les libéraux s'en vont, moins il y en a, plus ils partent, moins il y en a, personne ne veut y aller, il faut compenser, et donc c'est au service public d'y aller, donc on va créer des centres de santé. Deuxième remarque, c'était un message assez fort sur le fait qu'un CHU, même un grand CHU, était légitime à porter des centres de santé de médecine de premier recours, et que ce n'était pas l'apanage exclusif d'une médecine libérale. On nous accusait antérieurement d'être illégitime à le faire parce que d'abord c'était pas notre métier, à nous les hospitaliers, deuxièmement on allait faire ça pour plus cher que les autres, troisièmement on était trop gros, on était trop lent, on était trop ceci, trop cela. En l'occurrence on a ouvert des centres de santé et on l'a fait avec des centres de santé gérés par l'instance publique. Pourquoi est-ce que ça a marché? Et ça va parler à quelques-uns d'entre vous, parce qu'on a dit à ceux qui étaient prêts à y venir, vous êtes médecin généraliste, vous allez devenir praticien hospitalier, PH, temps plein de l'assistance publique. Et donc les mêmes, je ne parle pas des individus, mais les mêmes qui éventuellement étaient réticents à aller travailler de manière un peu solitaire, un peu instable, dans une équipe dont on ne savait pas très bien ce qu'allaient devenir les trois autres, sans savoir ce qu'allait être leur carrière à moyen terme, avaient la perspective d'être praticien hospitalier à l'assistance publique et donc de pouvoir faire un peu de centre de santé, un peu d'urgence, un peu de pneumo, un peu de passe, un peu d'autres choses, d'avoir une perspective de progression de carrière et autres. Et puis dernière remarque, et ça renvoie, et c'est pour ça que je voulais rebondir là-dessus, à la question de l'intégration. André faisait référence à l'intégration au sein des équipes entre paramédicaux et médecins, à l'intégration entre le monde de la santé et le monde médico-social. On a un enjeu d'intégration entre les soins de premier recours et les soins de spécialité. Et je pense que les hôpitaux, pas partout, il y a plein d'endroits où il y a des gens qui sont plus efficaces, plus légitimes, plus installés, etc. Mais un, là où il n'y a rien, l'hôpital public peut le faire. Et deuxièmement, parfois, l'hôpital public est particulièrement efficace à le faire. Et ma dernière remarque, c'est moi l'intention suivante dans ces centres de santé. Vous installez un centre de santé près de la Castellane, cité malheureusement bien connue dans la presse, au pied des Flamands, qui est une autre cité compliquée en ce moment, là, au pied des Égalades. Et vous vous rendez compte au bout de quelques semaines qu'il y a des médecins du travail, pardon, des médecins scolaires, je viendrai sur les médecins scolaires, il y a des médecins scolaires qui bossent un peu solitaires, un peu tout seuls, et que le recteur a du mal à recruter. Et puis qu'il a du mal à recruter les médecins, il a du mal à recruter des infirmières, il a du mal à recruter des professionnels de santé qui aillent bosser dans les lycées, les collèges, les écoles de ces quartiers. Et donc on est en train de réfléchir à l'idée d'intégrer ces équipes-là au sein des centres de santé. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils seront payés par l'AP, ni qu'ils seront salariés de l'AP. On va voir comment on organise ça, mais ma conviction, on verra si elle est confirmée, c'est qu'on attirera demain des infirmières et des médecins scolaires dans les quartiers populaires et les quartiers prioritaires de la ville, si on leur propose des conditions d'exercice qui soient collégiales, collectives, intégrées en lien avec le CHU, le cas échéant, salariés du CHU s'ils le souhaitent, mais je pense qu'il faut qu'on aille vers une territorialisation de l'offre de soins. Et enfin, et dernier point, que quelqu'un en soit responsable, parce que c'est l'autre caractéristique de ce qu'on a fait à Marseille, c'est qu'à un moment, grâce à une phrase dans un discours du président de la République qui venait s'exprimer sur Marseille en grand, et qui dans cette phrase a dit « J'attends de l'assistance publique qu'elle fasse cette offre de soins dans les quartiers nord parce que je n'accepte pas que les quartiers populaires de Marseille soient pris en charge par Médecins du Monde ». Non pas qu'il en veuille à Médecins du Monde, avec lesquels on bosse par ailleurs, mais parce qu'il n'est pas acceptable que des ONG garantissent l'offre de soins dans des quartiers de la République, qui soient en appui, qui soient en complément, etc., mais pas en première ligne. Et donc, grâce à cette phrase politique, ensuite, d'inspiration politique, ensuite, il a suffi de décliner. Il n'y avait pas d'obstacle, pas besoin de texte, pas besoin de circulaire, pas besoin de loi ou autre. Et donc, c'est aussi, et je m'en arrête là, la puissance que peut avoir la parole politique quand, à un moment, elle dit à un acteur capable de le faire, vous devez assurer l'offre de soins à tel endroit. Et comme par ailleurs on a tous les internes, tous les externes, tous les jeunes en formation, on a une certaine facilité à orienter les professionnels sans forcément leur imposer quoi que ce soit. En tout cas, on peut les stimuler. Quant à l'évaluation, en une phrase, non, globalement, on est très peu évalué.
Oui. Non, mais non, malheureusement, j'aurais bien reposé la question, mais il n'y a plus vraiment le temps. Je pense qu'il faut vous donner un peu la parole et que vous puissiez poser des questions, parce que ça passe très très vite à travers vos interventions.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.